présent des schémas datés et anciens du 19e siècle sans prendre la mesure de la nouveauté du présent.
C'est très curieux parce qu'au début de la discussion, c'était moi qui proposais des exceptions discontinues et c'était Marcel Gauchet qui disait qu'il y a un grand mouvement continu. Là. Nous inversons les choses. Là.
Comme vous le savez bien, continuité et discontinuité entretiennent des rapports.
Oui, mais là, vous dites quand même, de façon très, très formelle, c'est pas la même concentration du capital, c'est la désimpérialisation, c'est un monde qui s'achemine vers la coopération. Moi, je ne vois rien de tel. Franchement, je ne vois rien de tel. C'est pas parce qu'il y a diversité des polarités économiques dominantes qu'on sort de la logique de la concurrence internationale et de la rivalité aiguë. Ça, c'est l'essence de l'impérialisme. Encore une fois, ça n'est pas exclusivement la domination de l'Europe sur le monde, qui était en effet la réalité du XIIe siècle, une vision un peu européenne des choses. Au fond, l'expansion du capitalisme dans des pays où il n'était pas dominant, des pays qui étaient dominés par l'Europe, est une nécessité naturelle du capitalisme, à partir du moment où il ne rencontre plus d'alternatives différentes quant à l'organisation générale de la production et des sociétés. Mais qu'il y ait la Chine ou qu'il y ait l'Inde, eh bien, c'est simplement la reproduction à échelle mondiale de ce qu'était l'Europe. La crise du Moyen-Orient, ça ressemble comme une goutte d'eau à une autre, aux crises balkaniques qui ont précédé la guerre de 14. C'est vraiment la même chose. C'est-à-dire des petits États menacés aux franges de l'Empire autrichien, les grandes puissances rivalisent pour savoir avec qui on s'allie là-dedans, et puis finalement, à un moment donné, la situation est incontrôlable et des conflits considérables apparaissent. Les grandes puissances dont vous parlez, elles sont toutes en train de s'armer jusqu'aux dents. On ne s'arme pas jusqu'aux dents quand on est dans la perspective d'une paisible des nations. La puissance américaine est si soucieuse de conserver son hégémonie que son budget militaire est à lui seul égal au total du budget militaire des autres nations. Tant que cette situation durera, je regrette, mais les États-Unis seront considérés partout comme les gendarmes de la planète et comme en même temps la puissance avec laquelle tantôt on fait la cour, tantôt on entre en rivalité. Ce qui sont des phénomènes bien connus de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Donc, vous dites souvent la situation est plus complexe, vos schémas sont caricaturaux, mais vous ne me donnez aucun point sur lequel je vois qu'ils sont caricaturaux. Citez-moi un, hein, vraiment, sur lequel je serais forcé de convenir avec vous que c'est caricatural.
Personne ne force personne. Vous savez que ce n'est pas dans ma philosophie.
Argument par contrainte, un peu.
Écoutez, en effet, nous ne sommes pas dans un monde où l'angélisme est de mise. Bien sûr que la Chine ou l'Inde s'arment. Tant que notre monde n'est pas parvenu à un état de pacification, la bonne manière de penser, c'est, si tu veux la paix, prépare la guerre. Car en effet, le problème principal du monde aujourd'hui, c'est le problème des États-Unis. La puissance dominante qui n'a absolument pas pris la mesure de la situation dans laquelle il est plongé avec tous les errements politiques qui en résultent.
C'était exactement le cas de l'impérialisme britannique en 14.
Je ne crois pas. C'est là aussi une discussion technique.
La France était la Chine de l'Amérique anglaise.
Le problème de l'impérialisme britannique, c'était l'Allemagne, c'était pas la France. Et c'était un problème d'une nature très différente. Mais nous observons néanmoins, je ne sais pas, ce n'est pas une observation originale, mais il y a de bons esprits qui l'ont fait depuis un bon moment, que précisément la guerre connaît un recul frappant à l'échelle du monde. Alors, il y a des événements.
Ah bon ?
C'est pas tout à fait ça,
c'est n'importe quoi.
Les guerres locales ont fait plus fort depuis 1945 que la guerre de 40 et tout ça.
Oui, les guerres de la décolonisation. Mais parlons de la période récente, celle qui, conventionnellement, s'ouvre avec la chute du mur de Berlin. Il y a un recul mesuré, quantifié, c'est un sujet d'école pour les stratèges, la disparition des guerres majeures. Alors en effet, il demeure une violence armée qui peut dévaster des contrées entières du globe, mais on est dans une situation de baisse de la conflictualité qui est un élément clé de la situation internationale actuelle. Bien entendu que la concurrence des puissances demeure, mais une concurrence des puissances qui débouche sur un équilibre relativement pacifié, représente un progrès immense par rapport à des situations de confrontation directement belliqueuse, du type de celle que nous avons bien connue au XXe siècle.
Mais cette situation pacifiée des conflits avec limitation et longue absence du conflit frontal, elle a existé entre 1870 et 1914.
Oui, la longue période du 19e siècle.
Oui, bah, alors, donc, vous ne donnez pas un concret exemple.
Non, mais ajoutons qu'entre 1870 et 1914, il n'y a pas de guerre majeure entre les puissances européennes, mais en revanche, il y a une entreprise de domination militaire du globe qui se déploie à une échelle jamais vue. Et nous n'avons pas non plus cela aujourd'hui. Nous avons au contraire un repli de ces situations.
Je ne sais pas, même la France, qui est une puissance de troisième ordre aujourd'hui, a mené dans les dernières années 45 expéditions militaires sur le continent africain tout de même. Elle a encore là-bas 4000 hommes, etc.
Mais est-ce qu'on peut appeler ça des expéditions militaires de style impérialiste ? Quoi qu'on pense de l'impérialisme ? Je ne le crois pas.
C'est humanitaire.
Puisque le temps passe, Marcel Gauchet, que vous disiez un mot de cette réforme, cette capacité qu'aurait la démocratie contemporaine de reprendre la main sur le capitalisme. On a bien vu que le programme en trois points exposé dans les temps à la partie de la radio, quel serait le programme Marcel Gauchet ?
Le but, nous le connaissons, c'est précisément la subordination de la partie économique de nos sociétés, que nous appelons un peu vite capitalisme, à la loi du tout, qui, dans l'univers qui est le nôtre, a pour nom politique le peuple. C'est la possibilité, en termes plus abstraits, d'une reprise en main de l'économie par le politique. C'est ça l'objectif immédiat. Ça suppose de regarder de près ce que c'est que cette fameuse économie, dont je pense que la catégorie de capitalisme et le schéma marxiste que reprend à son compte Alain Badiou, rend très mal compte. La tâche intellectuelle prioritaire, c'est de tirer complètement les leçons de ce qu'a été l'échec historique de l'entreprise dite communiste, à tort ou à raison, au XXe siècle, mais notamment de sa base intellectuelle, qui est la lecture marxiste de l'économie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, une lecture erronée de ce qu'on met sous le nom de capitalisme, supposant les moyens d'une domination, parce que c'est bien ça qui s'est passé dans les systèmes communistes, d'une domination intégrale du système de production et de répartition par l'autorité politique. Ça donne des formules de type totalitaire pour aller vite. Sommes-nous condamnés à l'alternative ? Être dominé par l'économie qui dicte sa loi à la politique, ce qui est tendanciellement, il faut bien le reconnaître, dans la situation que nous connaissons, je ne songe pas à me méconnaître, mais là où nous divergeons avec Alain Badiou, c'est qu'il pense que c'est une situation structurelle, il a employé le mot, où l'économie capitaliste dicte sa loi à la forme politique.
ou bien sommes-nous en position, y a-t-il une indépendance suffisante du... un mot, une parenthèse pour comprendre la situation où nous sommes, les social-démocraties européennes qui donnaient le ton à nos sociétés depuis 1945 ont tout simplement vendu leur âme au diable en demandant à l'économie de résoudre au fond leurs problèmes, la justice sociale à leur place. Pas tout simplement la croissance économique dont est-ce qu'on tenterait de redistribuer les profits. Nous, autrement dit, ça n'est pas l'illusion d'optique et de croire que le capitalisme nous a imposé sa loi. La vérité plus triste, c'est que nous avons été demandés au capitalisme de faire le travail pour nous. C'est vraiment un pacte avec le diable léonin, parce que le diable nous a roulé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je crois qu'on peut le montrer assez précisément. Sommes-nous donc dans cette alternative, domination totalitaire de l'économie par le politique ou subordination du politique aux règles de l'économie, parce qu'il faut que quand elle marche toute seule, elle marche mieux. C'est ça la foi libérale du moment. Hein, on la laisse faire, c'est parfait. Et puis, à partir de là, le problème n'est que de tondre la laine sur le dos du mouton en essayant de récupérer un peu quelques éléments par la fiscalité, de façon à opérer une redistribution qui, certes, n'assure pas l'égalité des justices sociales, mais qui, du moins, améliore l'existence des populations. Sommes-nous enfermés dans ce schéma? Je ne crois pas. Et c'est de lui qu'il faut sortir. Ça suppose de regarder de près ce que c'est que ce fameux capitalisme qui fonctionne dans le discours social comme une espèce de deus ex machina qui tire les ficelles universelles. Je ne crois pas que ce soit du tout ça. Je crois que nous n'avons jamais compris ce qu'est le dit capitalisme. C'est pourquoi moi je préfère parler plus sobrement, même si ça me met dans des voisinages éventuellement dangereux, d'économie, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que le système économique de nos sociétés? Je ne crois pas qu'il ait cette cohérence et cette dynamique interne qui en ferait une sorte de principe explicatif du monde dans lequel nous sommes. C'est un ensemble à décomposer. C'est un faisceau de composantes qu'il faut analyser une à une, et dont nous voyons, quand on les analyse une à une, on voit d'ailleurs beaucoup mieux ce qu'est la situation de crise de nos sociétés. Ça suppose un faisceau de données relativement indépendant. Il n'y a pas de capitalisme imaginable sans la révolution scientifique du XVIIe siècle et ses suites. Le capitalisme est enfant de la science moderne. C'est un élément. Il est enfant de la pénétration de sociétés par cet instrument qui s'appelle la monnaie, qui devient l'argent, puis le capital, qui a son autonomie relative. Il est l'enfant d'une structure sociale parfaitement originale qui est une émergence absolue dans l'histoire, qui s'appelle l'entreprise, qui est un phénomène très complexe à décrire, en fait. Il n'y en a aucune bonne description. On ne sait pas ce que c'est. C'est ce qui peuple nos sociétés, mais nous n'en avons pas l'intelligence. C'est un type de rapport social très singulier qu'on appelle le salariat. Je rappelle que l'histoire du mouvement ouvrier, fondamentalement, et Marx l'a dit, le point primordial du programme ouvrier, c'est l'abolition du salariat. Aujourd'hui, c'est un thème qui n'est plus très porteur, je constate.
C'est dommage.
Mais il faut se demander pourquoi. C'est-à-dire que ce rapport salarial est devenu, à beaucoup d'égards, la forme dans laquelle, pour nous, le travail pour la collectivité est pensable. Être salarié, ça veut dire vendre quelque chose de soi qui vous laisse votre liberté par rapport à la participation au processus collectif. C'est quelque chose de très spécifique. Quand on regarde de la sorte le fonctionnement de notre système économique, je pense qu'on voit apparaître toute une série de possibilités techniques, alors qui demandent après à être raffinées, qui permettent de concevoir un mode de fonctionnement de nos sociétés extraordinairement différent de celui où nous sommes. Et en même temps, un mode d'articulation de cette économie et du politique qui préserve la forme démocratique tout en permettant un contrôle collectif sur ce qui se passe dans la sphère économique. Voilà, je crois, la ligne directrice de ce que nous devons réinventer.
Alors, à moins que vous ayez des objections pressantes à faire, je souhaiterais tout de même qu'on ait les 19h, près de 19h15, on a 10 minutes de questions. Je crois qu'il y a un micro dans la salle, donc n'hésitez pas, vos objections, vos remarques. On va peut-être prendre 2-3 questions à la suite, de sorte à pouvoir répondre au plus grand nombre de questions possibles. Levez-vous, levez la main éventuellement.